Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Decode by Visiative, le podcast qui décrypte l'actualité pour les dirigeants engagés. Aujourd'hui, nous aborderons une nouvelle série sur un sujet de plus en plus central dans le monde des affaires, la responsabilité sociale des entreprises. Que vous soyez à la tête d'une PME industrielle ou que vous participiez activement à sa gestion, nous montrerons que la RSE est non seulement une obligation, mais également bénéfique pour les entreprises de toute taille et bientôt un enjeu incontournable. Nous parlerons de ce qu'est réellement la RSE, en détaillant sa définition, ses enjeux et surtout les bénéfices tangibles qu'elle peut apporter à toute entreprise, tant sur le plan économique que social et environnemental. Mais parce que la théorie sans la pratique ne suffit pas, nous vous guiderons également à travers les étapes clés pour formaliser une démarche RSE avec des conseils pratiques pour vous aider à implémenter une stratégie efficace et pertinente. Enfin, pour vous inspirer, nous partagerons l'exemple de Visiative, une entreprise qui a su intégrer la RSE au cœur de sa stratégie, une histoire motivante qui, nous l'espérons, vous donnera envie de passer à l'action. Commençons par définir la RSE avec Julien Casagrande, directeur des achats et du développement durable pour le groupe Visiative.
Aujourd'hui, la RSE, ça va être impulser et mettre en œuvre et arriver à monitorer la contribution de l'entreprise au développement durable au sens large. Donc dans une optique de double matérialité, où on a l'entreprise vers son environnement, mais aussi l'environnement vers l'entreprise et comment tout ça interagit.
Ainsi, il s'agit d'analyser, de construire et de mettre en œuvre la contribution de l'entreprise au développement durable. C'est-à-dire se placer dans une double perspective, comment l'entreprise impacte l'environnement extérieur et comment l'environnement extérieur impacte notre activité. En termes plus concrets, la RSE, c'est une dynamique pour que les entreprises ne visent pas seulement à faire des profits, mais aussi à prendre en compte l'impact de leur activité sur la société et l'environnement. En voici les principaux axes. D'abord, évidemment, tout ce qui tourne autour de l'environnement. Cela concerne la manière dont les entreprises affectent la nature, le climat, mais aussi les ressources comme l'utilisation de l'eau, des énergies ou de la biodiversité. L'idée est de ne pas épuiser les ressources de notre planète, pour que les générations futures puissent aussi en bénéficier. Par exemple, réduire la pollution, diminuer l'utilisation des plastiques et adopter des sources d'énergie renouvelables. Il y a un deuxième axe social qui regroupe ce qui a trait au bien-être des collaborateurs. Des sujets autour de la rémunération équitable, de la diversité homme-femme, de l'inclusion. Par exemple, améliorer les conditions de travail pour accueillir les salariés handicapés ou proposer une flexibilité de télétravail. Ensuite, il y a l'axe lié à la gouvernance. Comment on va insuffler des principes de gouvernance plus démocratiques et de pilotage des sujets sociaux et environnementaux intégrés à la stratégie de l'entreprise. Cela peut inclure le fait d'avoir des pratiques commerciales honnêtes, de la transparence dans la communication des informations financières, etc. Et enfin, un pilier écosystème qui tourne autour de la relation globale de l'entreprise avec ses parties prenantes. C'est-à-dire mettre la stratégie pas seulement au service de la relation avec les actionnaires, mais avec l'ensemble de l'écosystème. Donc, les parties prenantes internes, comme les collaborateurs, mais aussi les partenaires externes, tels que les clients, les fournisseurs, les collectivités locales. Par exemple, choisir d'avoir des achats responsables, soutenir des projets communautaires ou s'assurer que les produits sont plus éthiques, plus sûrs, plus recyclables. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec la RSE, on essaye de passer d'un monde où tout le fonctionnement de l'entreprise était mis au service de la rentabilité des capitaux propres, vers un monde où l'entreprise doit avoir un impact positif sur l'ensemble de l'écosystème dans lequel elle agit, et donc prendre en compte l'intérêt de l'ensemble de ses parties prenantes dans ses décisions stratégiques. Ces bases posées, arrêtons-nous encore sur deux points sémantiques. D'abord, quand on dit RSE, le S veut-il dire sociétal ou social? Alexandra Solon, responsable RSE chez Visiative, nous répond.
Il n'y a pas de consensus sur comment on décompose l'acronyme RSE. On va dire que celui qui est le plus utilisé, c'est effectivement d'avoir ce triptyque social, sociétal, environnemental. Par contre, effectivement, la différence est assez ténue entre social et sociétal. On va dire que peut-être les questions sociales qui peuvent se poser au niveau de la RSE d'une entreprise, on va par exemple toucher la politique de formation, par exemple. Donc ça, c'est vraiment le développement des compétences de nos collaborateurs. Et une question un peu plus sociétale, c'est comment on va faire en sorte que nos effectifs soient diversifiés et donc on ait une sensibilité accrue ou en tout cas voilà une approche où on va essayer de se dire que dans nos effectifs, il doit y avoir une part conséquente de femmes et qu'on essaye d'atteindre de rechercher la parité, d'avoir une part qui soit conforme au texte réglementaire de collaborateurs en situation de handicap. Voilà, peut-être que ça peut être une différence.
L'autre point sémantique est lié à l'utilisation de plus en plus fréquente du mot durabilité. Ce changement de vocabulaire reflète une prise de conscience plus large des défis mondiaux. La durabilité, contrairement à la RSE, est intrinsèquement liée à l'idée de pérennité et de viabilité à long terme. Ce n'est pas seulement la durabilité de notre planète, mais aussi celle de l'entreprise elle-même qui est en jeu et qui nécessite une approche intégrée et équilibrée entre les piliers environnementaux, sociétaux et économique, au lieu de se concentrer uniquement sur l'un d'entre eux. En adoptant la durabilité, les entreprises acceptent une responsabilité élargie qui englobe la gestion des impacts environnementaux, le soutien au développement communautaire et la contribution à une économie plus équitable et plus durable. Maintenant que nous avons bien identifié le périmètre, regardons la situation française et listons les dynamiques qui poussent les PME à réfléchir, voire à formaliser une démarche RSE. Il y a d'abord des facteurs sociétaux de prise de conscience d'une évolution de l'humain et de la marque employeur. Il impacte fortement le recrutement et la fidélisation des collaborateurs, avec des candidats qui se tournent davantage vers des entreprises qui ont intégré une approche durable dans leurs activités et leurs produits. Il y a aussi des facteurs business à proprement parler, qui sont maintenant requis dans certains secteurs. Ça va être par exemple des réponses à appels d'offres qui demandent des informations sur les démarches durables mises en œuvre. Et enfin, le facteur réglementaire, central, qui va rendre ce sujet obligatoire et qui le fait passer du « nice to have » il y a 2 ans à « must have » aujourd'hui. Puisqu'il s'agit bien réellement d'être en conformité avec la réglementation si on veut continuer à exister économiquement. Alexandre Meyer, directeur de Good Steps, société d'accompagnement à la RSE, reconnaît que la situation évolue sensiblement ces derniers mois.
Plus que la prise de conscience, c'est donc effectivement la compréhension de la réalité économique du sujet, mais souvent ça passe par quelque part la vision des risques si jamais on se lance pas dans ce genre de chantier. Et aujourd'hui, il y a un risque majeur qui est une véritable vague qui embarque tout le monde dans ce marché et pour nous très très porteux, c'est évidemment le risque réglementaire. Parce que là, il est très réel. Et là où il y a 3 ans, ça restait encore relativement distant et ça dépendait justement beaucoup de la conviction des managers que le sujet était urgent, même si peut-être qu'il n'y avait pas ce driver réglementaire. Aujourd'hui, il est obligatoire pour 50 000 entreprises à l'échelle européenne d'ici d'ici 2026, qui est 5 fois plus que ce qu'était qu'avant. Et par ricochet, en fait, ce sujet réglementaire va concerner aussi tous les fournisseurs de rang 1 ou de rang 2 des entreprises qui sont soumises au reporting extra-financier, parce qu'ils vont devoir fournir des informations de durabilité pour continuer à travailler avec des donneurs d'ordre qui, eux, rentrent en fait dans les seuils de reporting extra-financier.
Mais il y a encore beaucoup de résistance, voire une approche un peu stéréotypée qui consiste à dire « la RSE, c'est beaucoup de freins, c'est beaucoup de réglementations, c'est beaucoup de contraintes à l'essor du business, etc. » En fait, ces risques existent bel et bien. Les impacts du risque climatique sont devenus une réalité même en France. Et ils mettent en péril la durabilité des entreprises. Donc il vaut mieux regarder le monde tel qu'il est et réfléchir à la stratégie pour s'y insérer afin d'avoir l'opportunité de survivre et de grandir dans le respect social et environnemental. Alors comment procéder ? S'il existe une contrainte de reporting de chiffres, il n'y a aucune réglementation qui définisse ce qu'est une démarche RSE ni comment la déployer. Je laisse Alexandre Meyer présenter les actions qu'il préconise en plusieurs étapes.
Il faut commencer par savoir où on en est, donc un état des lieux. Ça va se matérialiser par un audit, quelque part. Donc ce que on va aller interroger des personnes au sein d'une entreprise sur en fait le niveau de performance entre guillemets sur des critères objectivement définis. Donc on va se rattacher à des grilles d'évaluation. Il y en a plein qui existent, et donc c'est ce qu'on appelle des référentiels RSE. Donc il y a par exemple la norme ISO 26000 qui a été développée aussi par l'AFNOR, qui est un référentiel. Il y a maintenant les ESRS, donc la vision européenne réglementaire de l'ensemble de ces sujets. Ensuite, on va impliquer les parties prenantes. Donc ça, c'est plutôt ce qu'on appelle une analyse de matérialité. C'est un nom un peu joli pour dire qu'on va interroger les parties prenantes sur quels sujets, quels enjeux sont importants à leurs yeux à intégrer à la stratégie RSE d'une entreprise. On va dire, OK, est-ce que pour vous, le sujet biodiversité est important dans les 3 prochaines années pour l'entreprise? Oui, enfin, en donnant une échelle d'évaluation. Et en envoyant, en fait, ce questionnaire à un grand nombre de parties prenantes, on va réussir à avoir un résultat qui est quand même statistiquement intéressant et de se dire, en fait, là, il y a la vision du dirigeant sur, en fait, quelles sont ses priorités, et on va la confronter à la vision de ces parties prenantes. Quelles sont les priorités sur le business versus les priorités pour les parties prenantes. Et donc, on va faire ce qui s'appelle une matrice de matérialité. Et donc, si on identifie des grands écarts entre ces priorités-là, c'est peut-être qu'il y a un sujet à creuser, justement. Et tout simplement, après, il y a des sujets qui sont clairement identifiés, mais juste qu'ils ne sont pas encore traités. Et puis, il y a peut-être des sujets qui ne l'étaient pas parce qu'ils n'étaient pas identifiés, qu'il faut remettre à l'ordre du jour. On va créer un plan d'action, en fait. Donc là où, en fait, l'analyse était assez, on va dire théorique, on l'applique ensuite à un cadre très concret dans l'entreprise. Donc là ça implique d'avoir une task force en interne qui va s'occuper de la mise en œuvre opérationnelle des sujets. OK, maintenant qu'on a identifié que la biodiversité était l'impact sur la biodiversité du site X de mon entreprise était un sujet majeur dans les 3 prochaines années, comment on fait pour le régler? Ça se transmet dans un plan d'action pilotable avec des équipes projet, avec des objectifs quantifiables. Maintenant, le travail, c'est de choisir les bons indicateurs, en fait, finalement, avoir des listes d'indicateurs, c'est relativement facile. Il y en a plein qui existent. C'est finalement choisir les bons et ceux qui sont pertinents pour justement piloter les bons sujets dans mon business. Il vaut mieux moins d'indicateurs, finalement, mais choisir les bons. Une liste à la Prévert, justement, ça veut souvent rien dire, mais c'est quand on arrive à mettre les indicateurs en face de la stratégie de l'entreprise que ça devient pertinent. Mais c'est vraiment très important d'avoir commencé par le début, qui est le pourquoi, le constat et effectivement l'éveil de la conscience avant de penser à faire du reporting. un peu la carotte qu'on va utiliser pour dire, ah, si vous ne faites pas votre rapport, faut vraiment s'interroger sur le pourquoi des sujets. Et une fois qu'on comprend pourquoi, c'est beaucoup plus facile d'insuffler en fait ces projets de transformation par le plus haut niveau et à tous les niveaux de l'entreprise en fait. Parce que souvent, en fait, il y a une culture existante dans la boîte, mais elle est informelle, elle n'est pas forcément écrite. Mais il y a toujours des valeurs. Donc, rien que le fait de reprendre ça depuis le début, de les poser, de les écrire, de se dire, OK, bah, en fait, il y a un truc qui est partagé à 97% des employés dans cette boîte, c'est la fierté d'appartenance locale, par exemple. Et ben, on va bâtir, ben, c'est très fort comme valeur, et on va essayer de bâtir un plan d'action. Sur cette qui font un lien aussi avec ces valeurs, et tout de suite c'est beaucoup plus fort parce qu'effectivement c'est plus seulement un indicateur dans un rapport qu'il faut faire pour faire plaisir au management, mais c'est un pan de la stratégie en cohérence avec l'identité de la boîte qu'on va développer.
Ainsi, pour résumer, il est recommandé de réaliser un audit ou diagnostic en impliquant les parties prenantes pour co-construire un plan d'action en lien avec les objectifs et les valeurs de l'entreprise. La particularité de la RSE, c'est qu'elle nécessite d'avoir une vision à 360 degrés pour bien identifier toutes les interactions, tous les impacts et sélectionner les indicateurs qui seront pertinents. Mais il est aussi fondamental de conserver cette approche 360 dans l'application de la démarche, afin d'insuffler une collaboration étroite entre les différents services. Alors, qui pour piloter cette démarche? Alexandre Meyer décrypte les sous-entendus selon le service responsable de la RSE.
La position de cette personne dans l'organigramme est généralement assez représentative aussi de l'engagement d'un groupe sur le sujet. Soit ça a pu être généralement des postes qui étaient rattachés à la RH pour des sujets d'engagement des collaborateurs. Ça peut être des postes qui sont rattachés directement au COMEX et donc, qui sont plus transverses. Donc là, c'est plutôt bon signe sur le fait que la stratégie RSE n'est pas traitée en silo, mais plutôt en fait un impact sur l'ensemble en fait des business units de la boîte. Ça peut être un job qui est rattaché à la communication. Donc là, c'est moins bon signe. C'est plutôt pour dire que c'est des sujets qui sont un peu traités pour faire du greenwashing et donc on les rattache en fait à la partie com parce qu'en fait la RSE est au service de la communication et pas le contraire. Donc c'est intéressant de voir ça et aujourd'hui la RSE va être de plus en plus rattachée à la partie finance. Donc on voit les directeurs financiers qui sont en train de aussi de prendre à bras le cœur ce sujet parce qu'effectivement il devient la production de l'information et des comptes, quelque part un nouvel aspect. Comme on sait, la finance est souvent très proche de la stratégie et des dirigeants, donc c'est plutôt bon signe.
Je laisse Julien Casagrande illustrer cette interconnexion entre les périmètres RH, achat et communication.
Si on veut avoir une vraie politique RSE, c'est de travailler sur tous les aspects, les uns ayant aussi des impacts sur les autres. Aujourd'hui, votre politique environnementale pourra vous permettre d'attirer et de fidéliser des agents, par exemple, en montrant que vous êtes plutôt vertueux. Donc ça, c'est un effet ricochet, on va dire. Je vais essayer de lier mes actions sociales à la politique de mécénat pour essayer de créer aussi un cercle vertueux, typiquement. Pour favoriser l'inclusion, le mécénat vers l'inclusion et la formation des femmes dans l'IT, pour derrière pouvoir attirer et recruter de nouveaux talents liés à ce levier de mécénat. En fait, la RSE, ça ne va pas être un calcul de ROI identique à un calcul de ROI business. Et c'est ce qui est le plus difficile à appréhender. Aujourd'hui, dans une situation de mesure de la durabilité, concrètement, est-ce que mon entreprise, dans 10 ans, pourra continuer à exister si je n'arrive pas à matérialiser et anticiper les impacts de l'environnement sur mon entreprise.
Ainsi, la RSE est très impactante sur la stratégie de développement de l'entreprise. Ça ne peut pas être une démarche gérée en silo dans un coin. Nous allons illustrer cela avec l'exemple de Visiative. En 2024, l'entreprise lance son nouveau plan stratégique, Shift 5, et en parallèle, une nouvelle feuille de route RSE définie avec la même temporalité. Je laisse Alexandra Solon la présenter en détail.
Donc en matière RSE, nous, on va vraiment se positionner, donc déjà dans le cadre du nouveau plan stratégique Shift 5, nous, on va avoir trois chantiers principaux. Le premier, ça va être de ce qu'on appelle être leader dans l'ESG, donc être vraiment compliant sur la réglementation qui est en train d'évoluer et qui est très importante puisque le but, c'est à terme d'éviter le greenwashing, donc vraiment d'être dans une optique vraiment de transparence et d'élargissement de la donnée extra-financière, d'être au rendez-vous de nos obligations légales. Et c'est aussi effectivement avec toute notre relation avec nos investisseurs, avec aussi tous les organismes de certification, de labels, etc. Voilà. Le deuxième, c'est vraiment d'accroître notre impact via notre proposition de valeur. Donc là, c'est vraiment faire en sorte qu'on puisse, par nos produits et par nos solutions et par nos compétences, aider nos clients à avoir une approche durable et une RSE plus forte dans sa pratique. Et puis, le dernier chantier qu'on a, c'est effectivement de renforcer ce qu'on appelle l'impact positif au sein de l'écosystème. Donc là, on va plutôt être sur ce chantier-là, sur les questions justement de mécénat, donc de lien, de partenariat avec la société civile, faire en sorte que ce soit plus fort. Et puis, toutes les questions d'engagement collaborateur, donc avec la possibilité pour nos collaborateurs qui se sentent davantage acteurs et qu'on leur donne les moyens de pouvoir s'engager pour aussi participer à cette politique de durabilité.
On a donc une démarche transverse sur l'ensemble de la chaîne de valeur qui nécessite aussi une transformation de l'entreprise. C'est pourquoi Julien Casagrande rappelle un point important.
Oui, il y a ces enjeux humains, financiers et surtout de sponsoring, accompagnement par la direction générale pour faire avancer les sujets. Parce que on disait qu'il faut que les actions et la politique elles soient étroitement liées aux autres enjeux de l'entreprise et à la stratégie et à la gouvernance. Donc derrière, ça reste, je pense, le principal enjeu d'une politique réussie.
Pour conclure, la RSE, c'est la contribution volontaire des entreprises au développement durable au travers de différentes interactions avec l'ensemble des parties prenantes. C'est aussi l'opportunité d'adopter une approche proactive et durable qui renforce la compétitivité, attire les talents et contribue positivement à la société et à l'environnement. Je laisse Alexandre Meyer conclure.
On voit une évolution des réglementations et ce qui est intéressant de noter, c'est que l'Europe et la France sont un peu un laboratoire expérimentaire d'expérimentation sur le sujet pour le monde. On a la chance d'avoir à la fois une prise de conscience au niveau individuel et un tissu entrepreneurial et économique qui s'est beaucoup transformé sur le sujet dans les dernières années. Donc on est finalement relativement en avance par rapport au reste du monde. Il y a une vraie opportunité pour l'Europe de créer des champions sur ce sujet et d'être en fait des rôles modèles et en créant un cadre économique, réglementaire et des bons exemples aussi qui montrent qu'en fait c'est possible d'être à la fois vertueux et successful, performant économiquement sur le sujet.
Si ce podcast vous a intéressé, retrouvez nos autres épisodes dédiés à la CSRD et à la démarche de Viziative ou téléchargez notre position paper Decode by Viziative sur notre site viziative.com. À bientôt !